à voix nue. Toute cette semaine, de lundi à vendredi, Yorgos Archimandritis rencontre Gilles Jacob. Ce soir, l'amour de l'art.
Gilles Jacob, vous avez vécu avec le cinéma. Vous l'avez vu, vous l'avez lu, écrit, analysé, raconté. Vous l'avez adoré, vous l'avez célébré. Comment expliquez-vous cet amour ?
Ah, c'est l'amour de l'art en général qui se traduit au XXe siècle et au XXIe par le cinéma. Je ne sais pas vers où ça va déboucher. Peut-être un jour les séries, peut-être d'autres styles d'art. Mon prédécesseur Maurice Bessy disait toujours « le cinéma est mort ». Moi, je n'ai pas assisté à sa mort. Tout au moins, en tout cas, en France, aux États-Unis et en Asie. Il y a certains pays où il décline, faute de moyens, faute d'aide des pouvoirs publics, mais c'est pas le cas en France, où le cinéma est très vivant, au contraire, et où il y a à peu près en permanence une cinquantaine de metteurs en scène de qualité en exercice en même temps. Alors, mon amour du cinéma, il s'est développé tout seul, parce qu'en réalité, mes parents étaient plus portés sur la peinture, et par conséquent... Ça s'est fait comme ça, ça a été une oscillation permanente entre la littérature et le cinéma et la littérature. Le cinéma est entré dans ma vie professionnellement, il aurait pu rester simplement un amour artistique de spectateur. Et en fait, il y a eu un mélange des deux, dans la mesure où le directeur du Festival de Cannes, s'il n'aime pas le cinéma, il vaut mieux qu'il aille faire autre chose. Et par conséquent, c'est le moins... qu'on puisse demander à un directeur de festival d'adorer et d'aimer le cinéma et de le servir, ce que j'ai essayé de faire.
Est-ce qu'on aime le cinéma parce que on aime les histoires, on aime les récits ?
Vous savez, Jean-Georges Auriol, et non pas François Truffaut comme on l'a cru, a dit un jour cette phrase célèbre, « Le cinéma, c'est l'art de faire faire de belles choses à de belles femmes. » Donc, ça va bien plus loin que ça, bien entendu. Mais c'est vrai que les jeunes gens... L'amour du cinéma passe aussi par la beauté féminine, par toutes ces vedettes, toutes ces stars qu'on leur met sous les yeux à l'écran. Et après, une fois qu'on s'est laissé envahir par les actions, les épisodes, l'amour au cinéma et non pas seulement l'amour du cinéma, ensuite les choses se développent tout naturellement. On essaye de voir comment c'est fait. Comment un film est, est-ce qu'il est bon, est-ce qu'il est pas bon, et on commence à analyser. Et quand vous analysez, tout d'un coup, vous rentrez presque dans l'œuvre elle-même, puisque vous-même voudriez recréer ce que le cinéaste n'a pas fait comme vous voudriez qu'il fasse. Et donc, toutes les choses se développent tout naturellement au fur et à mesure où les... C'est comme la vie, en réalité.
Est-ce que le cinéma nous apprend la vie ?
Alors, le cinéma nous apprend la vie, c'est vrai, mais... La vie est très forte quand même, et il n'y a pas que le cinéma. Hein. Mais le cinéma nous montre beaucoup de choses de la vie qu'on n'aurait pas vues ou connues, nous fait rentrer dans des milieux, dans des pays, dans des civilisations. Et là, à ce moment-là, il n'y a pas seulement que la fiction, le documentaire est un art considérable qui a été développé dans beaucoup de pays, notamment au Canada, qui a inventé en quelque sorte une certaine forme de documentaires il y a déjà longtemps, et par conséquent tous ces états différents du cinéma au fur et à mesure qu'il avance représentent en effet un certain moment de la vie et de la civilisation finalement.
Qu'est-ce qui vous a poussé, vous personnellement, à créer dans le domaine du cinéma, à être réalisateur ?
Mais vous êtes tenté, quand vous êtes critique de cinéma et que vous devenez ensuite directeur, mais c'est la même chose, vous êtes tenté de vous dire, mais au fond, tous ces films médiocres que je vois, parce qu'ils sortent des centaines de films par an, vous comprenez bien que sur les 600 films qui sortent, il n'y a pas 600 chefs-d'œuvre. Si vous avez 10 à 15 films par an qui restent dans l'histoire du cinéma, c'est considérable. Par conséquent, vous êtes vous-même tenté d'essayer... De vous y mettre. Alors ça peut être du cinéma, à l'époque c'était du 8 mm ou du 16 mm, maintenant avec les petits téléphones portatifs, et j'incite tous les jeunes gens qui nous écoutent à faire des films, à filmer tout ce qu'ils ont sous les yeux, et pas seulement de faire des selfies. Il faut aussi se lancer dans une espèce d'écriture à soi propre, Après tout, des grands metteurs en scène ont commencé comme ça. Claude Lelouch a fait des scopitones et des tout petits films minuscules avant de devenir le metteur en scène qu'on sait. Donc, tout naturellement, j'ai commencé à tourner des films parce que je voyageais quand j'allais aux États-Unis. Et par conséquent, j'avais acheté une belle EOL que j'ai du reste léguée au Festival de Cannes, et qui est un élément historique maintenant, et où je filmais tout ce que je voyais, y compris un incendie à San Francisco, y compris les stars que je rencontrais, etc. Donc c'est très précieux, à la fois comme archive proprement dite, et aussi pour s'entraîner à faire des films soi-même, à cadrer, à mettre en scène, à apprendre le montage, tous les ingrédients qui font qu'on devient un metteur en scène.
Donc il y a aussi une magie dans la fabrication d'un film, pas seulement dans le visionnement.
Ah, bien sûr. Alors là, le côté artistique commence à l'écriture. Et moi, en réalité, j'ai toujours eu envie à la fois d'écrire. Alors, ça passait par l'image, ça passait par l'écrit. Après tout, petit à petit, j'ai fait une douzaine de livres, j'ai produit des films, j'ai été éditeur de livres de cinéma et autres. J'ai édité la correspondance de François Truffaut avec Claude de Givray. Donc ça a été un événement à la fois littéraire et cinématographique. D'ailleurs, j'aimerais bien que cette correspondance soit rééditée, parce que maintenant, elle date de plusieurs années. J'ai fait des films pour le Festival de Cannes, des films de montage. J'ai fait beaucoup de films de montage. J'ai produit Les Préludes, qui a été fabriqué par mon fils Laurent. Qu'est-ce que c'était Les Préludes? C'était un petit apéritif de 3 minutes qu'on montrait avant le grand film pour mettre les gens de bonne humeur. C'était des petits films thématiques. On disait, par exemple, voiture, et on montrait des grandes scènes fameuses de courses automobiles ou de voyages en voiture de grands artistes, etc., etc. Et donc, cette multiplication d'actions en production, en création, en écriture, en mise en scène, également quand on a fait un film de montage à Cannes qui s'appelait « Chacun son cinéma » pour honorer un anniversaire également. Parce que chaque fois qu'il y avait un grand anniversaire, j'essayais de faire un film de création que nous produisions et que nous créions entièrement. Et alors l'avantage de ces films-là, là, par exemple, il y avait 35 metteurs en scène du monde entier qui avaient donné un film de 3 minutes sur la salle de cinéma. Et ce film-là est devenu un classique. Donc j'étais fier de l'avoir produit. En le produisant, j'ai filmé tous les metteurs en scène qui étaient à Cannes cette année-là. Et 5 ans plus tard, j'ai sorti le film sur cette journée qui s'appelait « Une journée particulière », qui a été aussi un événement à Cannes. Donc l'ensemble de toutes ces actions, production, création, laisse un corpus au Festival de Cannes d'archives très très précieuses, évidemment. La leçon étant toujours que en matière de documentaire, il ne faut pas faire de voix off. Vous savez, le genre de documentaire qui dit « Autrefois, la France était un pays sauvage et désolé ». Alors ça, on l'a proscrit complètement. Et ensuite, quand nous faisions des films de montage comme Les Préludes, on s'efforçait que de passer d'un film à l'autre, on ne voyait pas la couture, on ne voyait pas l'enchaînement. Ça, c'est un petit jeu qui permettait aux spectateurs cinéphiles dans la salle de deviner quel film c'était.
Est-ce que le processus de création d'un film est très différent du processus de création d'un livre ?
Un film nécessite une équipe énorme. Déjà, vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs scénaristes, mais ça vaut mieux. Le metteur en scène travaille avec eux, chacun apporte ses idées, il y a déjà un début d'équipe. Ensuite, il y a 50 personnes qui aident à créer, des décorateurs, des photographes, des monteurs, en fait tout ce que vous pouvez imaginer, des différents métiers. L'écrivain est seul. Il écrit, il pense, il imagine tout seul. Et c'est d'autant plus facile que vous pouvez mettre 50 éléphants en train de charger. Par écrit, ça ne coûte rien. Au cinéma, sauf à faire des effets spéciaux, c'est plus faisable, à moins d'être Hollywood. Et par conséquent, la liberté, elle est chez l'écrivain davantage que chez le cinéaste. Le cinéaste est contraint par des obligations financières, par des tas de considérations qui font que il est amené à s'auto-censurer. L'écrivain ne s'auto-censure jamais. Donc, avantage de la littérature pour la création la plus libre possible. Ça ne veut pas dire que le cinéma n'ait pas 1000 autres avantages, parce qu'en une seule image et en une seconde, vous décrivez tout un champ énorme la prise de la Bastille, alors que par écrit, il vous faudrait déjà 3 pages pour commencer à camper le décor. Donc c'est des choses très différentes.
Mais est-ce que dans la conception, il n'y a pas un fond commun entre les arts en général ?
Le fond commun, c'est la pensée. C'est la pensée du créateur. Ce qui est amusant, c'est de se dire qu'en réalité, quand les grandes œuvres de la littérature sont exploitées au cinéma, généralement, ça rate. Ça fait des illustrations par une sorte de respect. Le cinéaste est intimidé par l'œuvre de Dostoïevski, Balzac, Shakespeare, etc. Et à moins d'être un génie lui-même, comme Orson Welles ou Tarkovsky, qui digère et recrée à leur manière la grande œuvre du grand écrivain, ça ne marche pas. En revanche, quand on part d'un petit roman à 2 sous, mal fichu, un petit roman policier, quand Orson Welles fait La Dame de Shanghai, il est dans une cabine téléphonique, il a son producteur au téléphone, et le type lui dit, mais écoute, il faut absolument qu'on fasse un film, n'importe quel film, qu'est-ce que tu proposes? Il voit sur la tablette du téléphone un titre, la Dame de Shanghai, un vieux roman à 2 sous laissé là. Il le prend, il l'emporte, il dit c'est la Dame de Shanghai. Après, il recrée la chose complètement et il en fait une œuvre d'Orson Welles. Donc vous voyez, il y a deux aspects et deux abords possibles.
Vous avez parlé justement d'Orson Welles en utilisant le terme chaîne foudroyée dans un de vos livres. Quel regard portez-vous à la fin de carrière d'un réalisateur ?
C'est très différent. Vous avez des génies, comme on parlait d'Orson Welles ou Eric von Stroheim, qui ont très très mal supporté le fait qu'ils étaient brimés par Hollywood. C'est principalement des gens qui étaient allés à Hollywood pour développer leur carrière et qui, tant que les films marchaient bien, avaient tout ce qu'ils voulaient, et notamment le final cut, ce qu'on appelle, c'est-à-dire le droit de regard sur son film et le montage final. Et puis, dès que ça a commencé à moins marcher, alors à ce moment-là, c'était fini, on leur donnait plus d'argent, on leur mettait des gens, des superviseurs, qui étaient généralement de petits crétins. Donc, ça s'est très très mal terminé. Vous avez d'autres carrières qui sont intermittentes, parce que ma théorie est qu'un grand metteur en scène a 15 ans de bon. C'est pas forcément les 15 premières années de la vie. Ça peut être soit au milieu, au début, ou par moment. Par exemple, John Huston, un très grand réalisateur américain, a eu des bons films tout au long de sa vie, puis aussi des mauvais, parce que ça se passait mal, ou parce qu'il n'avait pas l'argent, ou parce qu'il n'avait pas l'imagination suffisante. Mais à la fin de sa vie, il a fait un de ses chefs-d'œuvre qui se passait à Dublin, qui était un simple repas. Souvent, à la fin de leur vie, les grands metteurs en scène ont une espèce de regard assagi par la vieillesse et ils vont aux vrais problèmes, ou à la vraie sagesse en réalité. Et ça, c'est toujours très beau. Donc c'est vous dire la grande diversité qu'il y a pour la fin de vie des metteurs en scène.
Vous vous êtes longtemps interrogé, Gilles Jacob, si vous préfériez les films ou les metteurs en scène. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez la réponse à cette question ?
Non, je ne l'ai toujours pas, parce qu'en réalité, l'amour, contrairement à dans la vie, l'amour au cinéma change tout le temps. Si vous me demandez mon film préféré dans le monde entier, j'ai longtemps dit La règle du jeu de Jean Renoir, qui est un film magnifique, qui reste un des plus grands. Et puis de temps en temps, je dis Citizen Kane, et puis de temps en temps, je vais dire un Chaplin, un Buster Keaton, ça bouge. Et c'est très bien comme ça, parce que ça montre à quel point le patrimoine est un art vivant. Et il faut justement que les gens s'amusent à dire quels sont mes 10 meilleurs films de l'histoire du cinéma. Encore faut-il avoir pu connaître l'histoire du cinéma, ce qui était très facile de mon temps, parce qu'il y avait 50 ans à rattraper de culture, alors que maintenant, il y a 100, 110 ans, ce qui est presque impossible. C'est pourquoi la jeune génération, maintenant, ou prend le cinéma au moment du parlant, ou le prend aux années 70, ou ne le prend pas du tout, et picore quelque part un film de Truffaut, un film de John Ford, un film asiatique, ça dépend. Et c'est très bien comme ça.
Donc aujourd'hui, c'est plus difficile d'être un cinéphile instruit ?
C'est beaucoup, beaucoup plus difficile. C'est presque impossible d'avoir une connaissance mondiale de l'histoire du cinéma depuis la période du muet à nos jours, parce qu'il faudrait y consacrer 24 heures sur 24. Or, vous avez mille autres sollicitations. Les jeunes aujourd'hui, ils sont sur leur téléphone portable, sur leur tablette, ils vont sur Internet, ils demandent t'es où, on se rend compte, on discute, ce qui est très bien, mais on n'a pas le temps pour aller au cinéma, surtout si on regarde des séries, par exemple. Et par conséquent, ça devient beaucoup plus fragmentaire. C'est comme ça, c'est l'évolution. Je ne dis pas que c'est bien ni que c'est mal, c'est comme ça.
Les séries, justement, est-ce qu'elles ont influencé l'écriture cinématographique ?
Pas encore, mais elles vont l'influencer. En réalité, la série a une chose extraordinaire pour les gens qui sont chez eux le soir, les gens d'un certain âge, par exemple. Ça dure 45 à 50 minutes. Déjà, c'est pas deux heures et quelques. Donc on peut faire ça tranquillement. Si on retravaille le lendemain matin, on n'est pas obligé de se coucher à 2 heures du matin. Ça va très bien. En plus de ça, il y a un rythme dans les séries qui n'est pas du tout le rythme du cinéma, qui peut être contemplatif. Les films asiatiques, indiens, japonais sont des films lents qu'on ne supporte plus, même si c'est des chefs-d'œuvre, quand on a vu juste avant une série au rythme saccadé, précipité, etc. Et surtout, la série ne se permet pas un temps mort de 10 secondes. Il faut tout de suite qu'il y ait des nouveaux éléments qui arrivent. Alors, c'est très bien quand on est soi-même un peu vif. C'est un art nouveau qui, pour l'instant, n'est simplement qu'une technique parfaite, parce qu'il y a tous les moyens. On recommence les scènes le temps qu'il faut jusqu'à ce qu'elles soient parfaites. On utilise les meilleurs metteurs en scène en leur donnant beaucoup d'argent, les meilleurs techniciens. Par conséquent, les séries sont parfaites. Je parle des séries importantes, etc. Mais il manque maintenant le supplément d'âme qui en fera vraiment de l'art. Et ça, j'attends de le voir. Alors, il y a eu des très grandes séries américaines, comme La Maison Blanche ou Les Sopranos. Aujourd'hui, Netflix multiplie les séries, mais ils ne sont pas les seuls, bien entendu. Il y a une concurrence énorme entre ce qu'on appelle les GAFA, entre eux, pour produire le maximum de séries à n'importe quel coût. Parce que quand vous avez maintenant des millions de spectateurs de séries à 10 euros par mois, vous multipliez ça, vous vous apercevez qu'on parle de milliards. Le cinéma peut pas lutter, même Hollywood. Et par conséquent, c'est un problème.
Quand il y a des millions de spectateurs, il y a aussi une sorte d'uniformisation de l'œuvre.
Mais c'est pas forcé, parce que vous avez des séries très très différentes les unes des autres, et en réalité, vous avez une uniformisation du format, mais pas forcément de l'œuvre elle-même.
Pourtant, une série qui s'adresse au peuple de toute la Terre, elle doit adopter les codes qui sont des codes mondialisés.
Oui, mais ça ressemble beaucoup au cinéma. Vous prenez la série The Crown, qui est donc sur la royauté en Angleterre, et notamment la reine Elisabeth, qui a eu un règne extrêmement long, comme on sait. Eh bien, vous vous apercevez que beaucoup des épisodes sont consacrés à des petits faits de la vie de tous les jours, amoureux notamment entre elle et le prince Philippe, ou bien les amours de sa sœur Margaret, etc. Alors qu'il y a d'immenses choses qui se passent, comme par exemple l'invasion du canal de Suez par Nasser, qui est un des épisodes. Eh bien, ça, c'est historique. Alors que un petit lord qui est venu faire des représailles, des réprimandes à la reine d'Angleterre pour lui dire c'est pas du tout comme ça qu'il faut faire, et qui finit par être écouté, est un tout petit fait dans l'histoire de la couronne.
Donc la production culturelle des pays, la production culturelle nationale de chaque pays, va continuer à exister, à votre avis ?
Ah la production culturelle, forcément, parce que s'il n'y a plus de culture, il n'y a plus de civilisation. La barbarie gagne en ce moment dans le monde. La barbarie, l'extrême droite, enfin tout ce qu'on peut imaginer comme fléau. La seule façon de lutter contre ça, c'est l'éducation des jeunes gens, progressive, et l'accès à la culture. Si vous n'avez pas l'accès à la culture, qui devrait être gratuit, l'accès des musées, les expositions, les films, les bibliothèques, etc., alors là, vous laissez la porte ouverte à la barbarie, et là, je ne donne pas cher de la civilisation.
Ma question portait surtout sur l'identité nationale d'une culture.
Ah, l'identité nationale, ça c'est plus compliqué, parce que vous avez, je prends par exemple, mettons, le cinéma grec, eh bien, il faut qu'il garde sa culture nationale, quelles que soient les péripéties financières. Il faut donc que l'État grec consacre à son cinéma de certains montants pour à la fois aider les grands metteurs en scène, mais aider aussi les jeunes à les remplacer plus tard. C'est tout le problème des pays petits en matière cinématographique.
Est-ce que la production cinématographique française est prospère ?
Elle est plus que prospère, mais la France est un cas à part. Vous avez de tels moyens qui sont consacrés par les fonds publics pour aider le cinéma français qu'il est à la limite, même s'il ne fait pas de spectateurs, ce qui peut arriver, le film se fait quand même. Alors, c'est un inconvénient, parce qu'à ce moment-là, il ne faut pas non plus faire n'importe quoi et donner accès à n'importe petite comédie de dessous qui ne va pas aller à l'étranger. L'intérêt en art, c'est de gagner les publics du monde entier, avoir des films qui voyagent. Et ça, seuls les grands metteurs en scène ou un film qui sort comme ça de n'importe où et qui est bon, qui est de grande qualité, va faire le tour du monde.
Qu'est-ce qui reste finalement d'un film, Gilles Jacob ?
Comme dans toute œuvre d'art, ce qui reste d'un film, c'est à la fois le souvenir qu'on en a, l'envie qu'on a de le revoir, de le raconter à ses enfants et à ses petits-enfants, et puis de pouvoir le montrer, d'où l'immense intérêt des cinémathèques, des archives de films, des préservations. Il faut consacrer beaucoup d'argent. On en revient toujours au problème de l'argent, hein, pour justement sauver ces films. Et maintenant que les films sont faits non plus en pellicule, qui a montré qu'en 110 ans, la pellicule ne bougeait pas, si elle était bien conservée. Maintenant, les signaux électriques s'abîment, et il faut tous les 10 ans les recopier si on veut les laisser intacts et les sauver. Donc c'est un travail compliqué et il sera coûteux finalement, mais c'est l'évolution.
Oui, mais qu'est-ce qui rend un film intemporel ?
C'est son talent qui rend un film intemporel, et c'est les artistes qui s'y consacrent. On ne peut pas prévoir à l'avance. Vous savez, il y a des effets de mode, et puis il y a des effets permanents. Les grands metteurs en scène de l'histoire du cinéma, vous prenez Eisenstein, eh bien, un film d'Eisenstein, il sera toujours une merveille d'art, comme une sculpture de Rodin, ou comme un tableau de Sisley, ou de Van Gogh. Donc en réalité, l'art naît de l'art. Et en fait, tout va bien si on laisse les créateurs se former, s'installer et surtout créer.
Et vous, est-ce que vous allez continuer à créer ?
Et moi, j'ai basculé. À partir du moment où j'avais décidé de quitter le Festival de Cannes, quand approchait l'heure où il fallait savoir tirer sa révérence avant que soit l'âge, soit l'immensité du public vous conseille d'arrêter, j'avais décidé de me reconvertir justement dans la littérature qui avait été mon grand amour d'adolescence. Et longtemps à l'avance, c'est-à-dire 4 ans à l'avance, j'ai commencé à réécrire. Et maintenant que j'ai pris du chant, en une dizaine d'années, j'ai écrit 10 livres, dont un livre de photos. Je suis un peu un touche-à-tout en réalité, puisque je touche au cinéma, je touche à la littérature, je touche à la photo, je m'intéresse à la télévision. J'ai fait quand même 22 ans de journalisme, puisque j'étais critique de cinéma. C'est ce qui mène tout naturellement à la direction d'un festival. Par conséquent, la seule chose qui m'importe dans la vie, c'est le travail. Si vous travaillez, vous restez en forme, au moins intellectuelle, du moins je l'espère. Deuxièmement, vous ne passez pas votre temps à songer à des choses sombres, comme par exemple la mort qui approche. Et par conséquent, vous vous maintenez à peu près en bon état. Donc le travail, le travail, le travail. Et s'il y a la création par-dessus, vous avez une immense satisfaction artistique, même si vos livres ne sont pas vendus à des millions d'exemplaires. Vous savez, les grands écrivains, à l'époque, dans les années 20, 30, et même encore aujourd'hui, quelquefois sont tirés à 2000 exemplaires. Et c'est quand même des grands écrivains de la littérature qui sont redécouverts un jour. J'en demande pas tant, mais si je peux intéresser quelques lecteurs, par exemple, j'ai raconté dans le dictionnaire amoureux du Festival de Cannes, j'ai raconté mon itinéraire, mais j'ai surtout raconté le développement du festival, des œuvres, des créateurs, de tout ce qui s'y passait. Les gens qui lisent ce livre sont à l'intérieur du festival et du coup le découvrent en même temps que je l'ai découvert et fabriqué. Donc ça laisse quelque chose derrière.
Justement, dans la préface de ce dictionnaire amoureux du Festival de Cannes que vous avez écrit, il y a un texte que vous avez composé et qui scelle, je crois, votre rapport au septième art de façon définitive et absolue. Vous le lirez pour nous ?
Volontiers. Quand je suis né, la pluie tambourinait sur les vitres, paraît-il. J'ai vite admis qu'il n'y avait pas grand-chose d'intéressant à voir dehors, et j'ai eu très envie de retourner dans le ventre de ma mère, où l'air était doux. Je n'ai pas été long à comprendre que j'avais été fabriqué pour voir des films, quand cela consisterait l'essentiel de mon existence. Salle de projection ou entrailles maternelles, c'est un peu la même chose. On est dans le noir, il y fait bon vivre, on y trouve sa nourriture, et les fracas de la vie nous parviennent assourdis.
C'est ça, finalement, Gilles Jacob, le fil invisible de votre vie ?
Ça pourrait être ça, mais il y a tellement d'autres choses. Je vous remercie d'avoir eu l'élégance de commencer et de finir le cycle par deux pages de deux de mes livres, l'un « La vie passera comme un rêve », l'autre « Le dictionnaire amoureux du Festival de Cannes », qui en effet boucle bien mon itinéraire. Mais là, je vais me gendarmer, parce que ça voudrait dire que le cycle est fini. Alors là, pas question. On va continuer, on va faire des films, on va faire des livres, on va aider à la formation des jeunes gens du monde entier à acquérir, à aimer le cinéma et tous les arts. Et mon cher ami, le message qu'au fond je voudrais laisser aux nouvelles générations, c'est « Vive la vie !»
Fin de cette rencontre de Yorgos Archimandritis avec Gilles Jacob. À voix nue, réalisation Doria Zénine, prise de son Florent Layani, coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et ce podcast sur franceculture.fr.